Salut quoi ? Une émission littéraire de Radio Campus Paris, un lundi sur quatre, de 20h à 21h sur le 93.9 FM.
Qui dit fin d'année dit Spotify Wrapped, Deezer hier, rétrospective SNCF ou encore clôture budgétaire. En gros, pour à peu près tout le monde, le mois de décembre est le mois du bilan. Avec l'équipe de Saliqua, on s'est dit que ça pourrait être chouette de faire aussi une sorte de récap de notre année dans une forme qui change un peu d'habitude. Étant donné que c'est notre quatrième émission, c'est peut-être un peu osé de parler d'habitude, et si on devait faire un bilan de ces trois premiers mois radiophoniques, il risquerait d'être un peu maigre, mais on tenait à notre idée, alors on a décidé de faire un bilan de nos lectures de 2025. Coup de cœur ou plaisir coupable, livre chéri ou abandonné au cours de route, ce soir, on vous raconte tout. Pour cette émission exceptionnelle, le format sera tout autant inédit, mais rassurez-vous, certaines choses ne changent pas, à commencer par la présence de Garance en studio. Salut Garance.
Salut.
Et elle est là à chaque émission et sans elle, on ne saurait pas grand-chose, c'est notre réalisatrice Anna. Salut Anna.
Salut.
Ce soir est un grand soir puisque l'équipe de Saliqua est au complet en studio avec Margot qui a traversé un océan pour nous rejoindre. Salut Margot.
Coucou Maïwenn.
Et enfin ce soir, pas d'interview mais deux invités exceptionnels, nos amis Alice et Valentine. Salut à vous deux.
Salut. Bonsoir.
Une rétrospective, c'est plus drôle à plusieurs. Alors au programme de ce soir, on vous partage nos tops ou flops littéraires de l'année. On parlera de comment on lit et aussi de comment on ne lit pas. Et pour bien finir l'année, on discutera ensemble de notre coup de cœur commun, un désir démesuré d'amitié d'Hélène Giannichini. Bienvenue dans notre Saliqua Wrapped 2025. C'est parti pour une heure.
Saliqua sur Radio Campus Paris.
Alors comme je vous l'ai dit, ce soir, on voulait vous parler des livres qui nous ont particulièrement plu cette année. Donc on vous a concocté chacun, chacune, notre petit top avec nos livres qui nous ont marqués. Donc sans plus attendre, c'est Alice qui va se jeter dans le bain et qui va nous parler de ses pépites. On t'écoute Alice.
Merci déjà, je suis trop contente d'être là. Ça arrive rarement en fait de parler des livres qu'on a préférés et de faire le bilan de ces lectures de l'année. Moi je vais vous parler de deux bouquins que j'ai dévorés qui sont assez courts et le premier c'est Le voyage à Paimpol de Dorothée Letissier et je vais commencer par vous lire un petit extrait. Tout le monde nous surveille, tout le monde me guette, qu'est-ce qu'ils ont tous à s'agripper à moi ? Ils me pompent l'air tous ces autres. Je ne veux plus voir personne, je ne veux plus être utile à personne. J'en ai marre des « Marivonne, où t'as mis mon pantalon ?»« Maman, j'ai faim. »« Marivonne, tu peux taper ce tract à la machine ?»« Marivonne, à 10h, vous irez remplacer Madame D sur la chaîne. »« Marivonne, tu peux venir avec moi voir le chef d'atelier, il ne veut pas me donner des congés en août. »« Marivonne, tu penseras à échanger mes chaussures à la COP, je me suis trompée de pointure. »« Marivonne, tu diras à ton mari qu'il passe me voir un de ces quatre. » Marivonne, les frites, tu les as fait à l'huile ou à la végétaline ? Marivonne, qu'est-ce que t'as ? T'en fais une tête, t'as pas le moral ? Marivonne, j'en ai ras-le-bol, comment peut-on faire pour quitter l'usine ? Mais laissez-moi tranquille, laissez-moi me taire, occupez-vous de vos oignons. D'abord, quitter l'usine, cela ne se fait pas. On y entre pour 2 mois et puis on s'y consume pendant 40 ans. Voilà, c'était un extrait de la page 42, et donc à la fin plutôt du livre, mais qui montre hyper bien un des sujets centraux de ce bouquin, qui est la charge mentale qui pèse sur les femmes. Et elle en parle d'une manière qui est assez drôle, en fait, puisqu'elle va, cette Marivonne, décider de partir une journée, donc s'extraire de son quotidien à la maison ou au travail. Et moi, ça m'a beaucoup amusée. Bon, déjà, c'est un sentiment que je peux avoir parfois d'avoir envie de tout foutre en l'air et de partir. Et en fait, on se rend compte qu'on va pas très loin, mais c'est pas grave. En fait, ça lui permet de juste prendre du recul sur ce qu'elle vit. Et en fait, elle va faire plein de flashbacks et raconter un peu son quotidien à l'usine, tout en vivant des petites aventures, on va dire. Son voyage se passe pas exactement comme prévu, mais ça m'a bien fait voyager même si voilà, c'est à Paimpol en Bretagne, c'est pas très sexy comme destination peut-être.
C'est hyper sexy la Bretagne. Ouais.
Mais là, bon, ça dépend, mais enfin elle-même en tout cas le décrit comme une destination qui est pas ouf, mais qui va juste lui permettre de se casser quoi, et c'est le but.
Et juste moi j'ai une question, est-ce que c'est une réédition?
Oui, et ouais. C'est exactement, j'ai parce pas du que, tout parlé du ouais. contexte, mais oui, le bouquin, il est sorti. Elle l'a écrit quand elle avait 27 ans dans les années 80.
Oui, c'est aussi ça qui est intéressant, c'est de voir que, ouais, hyper,
que c'est encore hyper actuel et que, enfin, en gros, c'est son premier livre et elle l'écrit. On croit que c'est autobiographique et qu'elle raconte sa vie parce qu'en fait, c'est hyper proche. Mais ça reste une fiction et tout de suite, le livre va connaître un grand succès en fait dans les années 80. Parce qu'elle décrit ses conditions sociales, enfin, ça parle beaucoup aux gens, la jeune femme syndicaliste, révolutionnaire, qui est trop à fond et qui écrit. Et en fait, là, c'est les éditions L'Imaginaire de Gallimard qui l'a refait paraître, je crois, cette année ou l'année dernière, enfin, en tout cas, tout récemment. C'est une copine qui me l'a offert et voilà, mais ça trouve son écho, je trouve, même dans... Enfin, actuellement, bon, après, c'était il n'y a pas si longtemps. Voilà.
Et tu avais un deuxième livre ?
Eh oui, j'avais un deuxième livre.
Okay. En une minute.
En une minute, ouais, ok.
Mais sans pression, bien sûr.
Trop de pression. Ok,
temps,
ça
mais...
fait déjà 30 secondes.
C'est la première fois qu'elle est à la radio et c'est quand même lancé la première. Donc
la peur, on a vraiment dit ok, Alice, tu te jettes.
Let's go. Le deuxième livre, ok, j'en dis pas plus, c'est un texte théâtral que j'ai vu il y a 2 ans à Avignon. Et là, je suis retombée sur le texte que j'avais acheté tellement la pièce m'avait marquée. Ça s'appelle Dispatch, Dispatch. Et le seul point commun avec le livre d'avant, c'est que. En breton, ça veut dire ouvert révolution.
Et... Qui serait pas breton.
Pas du tout. Et donc oui, l'autrice, c'est Patricia Alio. Elle est incroyable. Elle s'est inspirée de son expérience en tant que spectatrice au tribunal permanent des peuples. Et donc, elle parle de migration, d'exil. Et en fait, surtout, elle utilise le dispositif du procès pour la mise en scène de sa pièce. Il y a plein de témoignages de vraies personnes qui ont vécu des histoires atroces. Et ça remet bien aussi tous les crimes perpétrés par la France et l'Union européenne. Qui vont à l'encontre des droits de l'homme. Enfin, c'est hyper cool. Là, c'est pas fun du tout.
Non, mais ça donne envie. Ouais.
Mais franchement, ça envoie trop. Et pareil, c'est très court et accessible. Je vous le conseille grandement.
Trop bien. Merci beaucoup, Alice. Et comme on a décidé d'être hyper cruel, c'est Valentine qui va poursuivre. Les invités sont jetés en première. Vraiment.
C'est
t'écoute.
Parce que vous êtes trop fort, du coup.
Ouais.
Peut-être parce que les invités sont celles qui ont le plus préparé leur passage, on ne sait pas.
Moi, je vais parler d'histoires pas fun du tout aussi. Mais déjà, merci beaucoup de m'avoir invitée. Ça me fait toujours trop plaisir de parler de livres. Je vais vous parler en plus de deux livres qui vont carrément ensemble. Je vais vous parler d'abord de Folle de Nelly Arcan, qui est apparue au Seuil en 2005. Moi, j'ai découvert Nelly Arcan assez tardivement. Je l'ai découvert il y a un an à peu près. Et depuis, c'est une de mes autrices préférées. J'ai lu les 3 livres qu'elle a écrits. Et en fait, donc, mon préféré d'elle, c'est Folle. En fait, Nelly Arcan, elle a écrit donc 2 autofictions et un texte de fiction. Et dans Folle, elle rédige une lettre d'adieu à son ex-copain toxique, avec qui elle avait une relation vraiment très compliquée. Tous les deux étaient accros à la cocaïne et au sexe. Et en fait, elle annonce dès le début de sa lettre qu'elle va se suicider à la fin de l'écriture de la lettre, ce qu'elle n'a pas fait, ce qu'elle fera 5 ans plus tard. En fait, dans ce livre, qui se lit vraiment comme un flux de pensées assez autodestructrice, elle raconte la relation complexe et toxique qu'elle a eue avec lui, et elle décrit en fait aussi, surtout, la figure de l'autre femme, de la femme rivale qui a été vraiment la 3e personne de la relation. Elle raconte vraiment dans des phrases très longues, très flamboyantes, et dans un texte très haletant, ce qu'elle a vécu, ce qui est qu'elle décrit vraiment comme une période assez traumatisante de sa vie, comme si elle avait besoin en fait de déverser ses pensées pour essayer d'en guérir. Et alors malheureusement en fait après l'apparition de ce texte, elle a été très moquée par la presse et elle a été tournée en dérision par la presse sur les plateaux télé, ça a été assez horrible, notamment chez Thierry Ardisson, ça a été affreux. Et en fait son ex a pu se défendre dans la presse et notamment en disant que elle aussi elle était complètement folle et qu'elle était aussi accro à la coke et au sexe qu'elle, et donc il minimisait clairement la violence de la relation. Et en fait c'est à ce moment-là que la bascule s'est faite chez Nelly Arcan et qu'elle est plongée dans une profonde dépression et que en fait elle s'est suicidée 5 ans après. Donc c'est extrêmement triste. Elle a jamais été reconnue de son vivant en tant qu'autrice, et ce qui m'emmène à parler de mon second livre parce que depuis quelques années il y a un mouvement de reconnaissance et de résurgence et de réparation de la mémoire de Nelly Arcan, notamment grâce à Pour Britney de Louise Chenevière, qui est sortie en 2024 et qui est apparue chez POL. Là, vous ne voyez pas, mais Maïwenn montre le livre.
Parce que la table du plateau est remplie de livres, ce soir.
Super. Et donc, dans Pour Britney, en fait, Louise Chenevière, elle écrit une autofiction où elle est donc à la fois narratrice et personnage et autrice du livre. Et elle parle de sa passion d'enfance pour Britney Spears. Et elle évoque l'hypersexualisation que Britney Spears a vécue. Et elle la met en parallèle avec l'hypersexualisation que Nelly Arcan a vécue. Parce que Nelly Arcan était blonde, elle avait des gros seins et elle portait des robes noires moulantes. Et du coup, quand elle allait dans des plateaux télé, tout le monde parlait de son physique et pas de ses textes. Et en fait, elle met en regard son expérience personnelle à elle, Louise Chenevière, avec celle de Nelly Arcan et celle de Britney Spears, dans le but de raconter une expérience vécue par toutes les femmes. Et pour Britney, pour moi, c'est vraiment un grand texte féministe parce que il est à la fois universel et personnel. Et pour moi, c'est vraiment l'aspect essentiel dans la littérature féministe, c'est de toujours rappeler que le privé est politique. Et ce qui est par ailleurs extrêmement important dans ce texte, c'est aussi son écriture. L'écriture rend le texte magistral et puissant. Elle aussi, comme Nelly Arcan, elle écrit des phrases très très longues, très haletantes, qui se lisent d'un souffle. Et surtout, elle bouscule l'utilisation de la ponctuation et des virgules qu'elle met un peu partout. Et en fait, elle explique elle-même que c'est une remise en question et une contestation des normes littéraires et syntaxiques établies par les hommes, en fait, qui dominent du coup la littérature et aussi globalement le monde. Et en fait, donc, ce texte est à la fois féministe dans son fond et dans sa forme. Et c'est pour ça que c'est un de mes livres préférés de l'année et je pense un de mes livres préférés de la vie entière.
Merci Valentine.
Et moi j'avais juste un truc par rapport à le changement de place par rapport à ce qu'on attend, ouais, de là où on va mettre la virgule. Et elle raconte qu'en fait dans les rencontres qu'elle a faites, c'est toujours les hommes qui vont lui dire, mais oui, en fait pourquoi vous faites ça,
ouais.
Et donc comme s'ils étaient attaqués par le fait, absolument, que la ponctuation est déplacée. Donc c'est hyper intéressant et ça montre bien que c'est un truc presque physique, quoi, que
oui, et en joue plus là, et que les codes qu'elle casse, ça fonctionne, quoi.
Oui, exactement.
Oui, genre ça dérange, ça vient déranger un endroit,
absolument,
et certains.
Ouais.
C'est ouf parce que dans le livre, elle décrit vraiment tous les plateaux télé sur lesquels Nelly Arcan et Britney Spears se sont faites démonter par les hommes, et elle-même ensuite, enfin, c'est un peu un cycle, oui, répété. Oui, et qu'elle-même, ça a été aussi un truc repoussoir où, en ayant vu Nelly Arcan sur la couverture, bah, c'était, elle s'est dit, bah, c'est pas pour moi, quoi.
Oui, parce qu'en plus, les éditions poche des livres de Nelly Arcan ont sur la couverture des femmes blondes avec des gros seins, ce qui est vraiment insensé.
Enfin, c'est elle.
Non, enfin oui, c'est elle, mais du coup, elle représentée vraiment très sexy et tout. Et ça, enfin, c'est assez lunaire quand même d'avoir ça comme couverture, quand même.
Ouais. Mais merci Valentine, je vais prendre le relais parce que en plus de base j'avais prévu de parler de Pour Britney car c'est aussi un de mes tops de l'année, mais comme tu avais prévu d'en parler, je me suis dit que j'allais te laisser la parole et tout, mais oui, enfin moi j'ai aussi adoré ce livre, en particulier le, enfin moi il y a une partie qui m'a très personnellement touchée, c'est quand elle parle de son rapport au corps et de ses amis, et je sais pas, il y a des passages où elle parle de plage et de se sentir exposée et que d'un coup il y a plus que le corps qui prend de la place et tout, et j'ai trouvé ça trop beau. Donc voilà, mais du coup je vais parler d'autre chose, car j'ai deux livres devant moi, j'ai pas trop préparé mais voilà. Le premier c'est Histoire d'une domestication de Camila Sosa Villada, c'est une traduction puisqu'elle est argentine, si je ne dis pas très bien. Anna valide cette info, on a fact-checké. Et c'est paru aux éditions Métellier. Et alors, je me souviens plus trop de quoi il parle exactement. Je sais que ça parle d'une comédienne trans et de son mari gay et qu'ils adoptent un enfant. Et tout le monde est un peu fou dans ce livre. Genre, à la fois la comédienne, son mari, l'enfant, la famille. Enfin, c'est un peu un peu de la folie de partout. Mais tout ce que je me rappelle, c'est qu'une fois que j'ai commencé ce livre, je ne pouvais plus le lâcher, j'arrivais plus à m'arrêter, ce qui est un excellent indicateur, je trouve, étant donné ma capacité à laisser tomber des livres. Mais du coup, voilà, enfin, ça, je le conseille vraiment. Bref, c'est super. Je ne vais pas en parler plus, car ce serait un peu mentir. Et le deuxième livre, je ne l'ai pas du tout lu cette année, donc encore une fois, je...
Tu allais dire, je ne l'ai pas du tout lu.
Je parle de ma liste pour l'année prochaine. Non, je l'ai lu, mais je l'ai lu il y a 2 ans, donc bon, je rabats les règles, mais en fait, de toute façon, c'est moi qui anime, donc je fais un peu ce que je veux. Et c'est un livre qui s'appelle « La version qui n'intéresse personne » de Emmanuel Pierrot, et c'est aux éditions Le Cartanier. C'est des éditions québécoises, car Emmanuel Pierrot est québécoise elle-même. Et c'est un super beau roman, c'est sur oh là, on va croire que je m'en souviens pas non plus, c'est sur une femme
car on est féministe sur cette
non, c'est sur une femme et son meilleur ami qui sont un peu des qui ont grandi dans l'extrême précarité à Montréal et qui partent vivre au Yukon qui est le grand nord canadien, genre presque l'Alaska. Et ils vivent dans cette communauté au Yukon, et en fait c'est un peu comment une communauté très libertaire, très punk en fait, peut se retourner contre les femmes dès qu'il se passe des choses pas drôles. Et moi j'ai adoré ce livre pour plusieurs raisons. Tout d'abord, le langage, c'est écrit en québécois. Enfin, il y a vraiment du dialecte, enfin je sais pas si on peut parler de dialecte, mais du vocabulaire québécois dans le livre. Et c'est assez fou, enfin... Bon, on connaît tous un peu globalement l'accent québécois, mais je ne l'avais jamais lu à ce point-là. Et ça transporte. Et justement, ça va avec mon deuxième point, qui est que du coup, ça se passe au Grand Nord canadien. Et moi, j'avais vraiment l'impression d'y être. Enfin, ça transporte vraiment. Et j'aime beaucoup les livres où on a l'impression d'être dépaysé rien qu'en les lisant. Et ce livre, ça en fait vraiment partie. Elle parle, je ne sais pas, des hivers où... Ben en fait, si t'as pas traversé la rivière à temps, tu te retrouves bloqué pendant 3 mois de l'autre côté de la rivière et t'es obligé de te faire livrer par hélicoptère ta nourriture. Enfin, c'est assez ouf. Ensuite, il y a un chien qui est un des personnages principaux du livre. Elle s'appelle Luna et c'est pas un husky, c'est un malamute de Sibérie. C'est des énormes chiens, chiens de traîneau. Et Luna est vraiment un personnage qui a toute sa place dans le livre et je trouve ça hyper bien. Et voilà, et aussi juste, en fait, c'est un peu une autofiction et l'autrice a vraiment eu cette expérience très punk de cette communauté. Et du coup, elle décrit vraiment la violence qui peut aussi émaner de cette communauté-là. Et c'est d'autant plus déchirant qu'on sait que c'est réel et c'est très très bien écrit. Et voilà, et j'ai eu la chance de la voir à une rencontre au Mont-en-l'Air. Et elle était trop mimi et elle était un peu... Enfin, un peu, elle savait pas trop ce qu'elle faisait là. Et voilà.
Donc, mais elle a vécu là-bas.
Elle a vécu là-bas, ouais.
Ok. Elle y a pas été juste pour écrire le non. livre en tant que presque chercheuse.
De ce que j'ai compris, c'est vraiment... Enfin, c'est pas sa vie. Parce qu'il y a beaucoup de violence aussi dans le livre. Je sais pas si c'est elle qui l'a vécu. Mais en tout cas, elle a vraiment vécu là-bas et elle a commencé à écrire de la poésie de base.
Ok.
Et en fait, elle avait envoyé un projet de poésie en prose et elle en a fait un roman.
Ok.
Ouais. Voilà.
Trop cool.
Ouais, trop bien.
Et sur ce, à moins que vous ayez d'autres rebondissements à proposer.
Bah, on a dit que Nelly Arcand, elle était québécoise. Tu l'as dit.
Ouais, et oui. Justement, j'ai pas du tout senti sa québécoisité.
C'est vrai.
Ouais, dans l'écriture, vraiment, ça aurait pu être écrit par une Française de français et ça m'aurait pas choqué, quoi.
Oui, pour ma part, j'ai commencé, je sais pas si on entend mon ventre, j'ai commencé Putain de Nelly Arcand, que je n'ai pas fini d'ailleurs.
Est-ce que t'aimais pas ?
J'ai eu un peu du mal, ouais, avec.
C'était trop cru ?
Non, c'était plus le manque de points et de.
Ok, je mets des points.
Donc en fait, je suis là.
c'est un livre qui se lit d'un coup et je suis pas rentrée dedans d'un coup.
Si tu prends pas le
et du coup, j'arrivais pas à trouver de moment pour faire des pauses et voilà. Mais peut-être je vais le finir un jour.
Mais par ailleurs, je trouve ça intéressant la diff parce que moi, je l'ai lu quand j'étais à Montréal, j'ai fait un échange à Montréal. Et en fait, je trouve que c'est aussi hyper intéressant de voir que Nelly Arcan, elle a été effacée, mais un peu moins au Québec qu'en France, où je pense que ce rapport-là à l'écriture des femmes, toutes les questions de violence, de genre, c'est arrivé beaucoup plus tardivement.
En France, tu veux dire ?
Oui, en France, pardon. Et voilà, et en fait, c'était une évidence, c'était une sorte de classique. Et donc, c'est comme ça que je l'ai découvert. Alors que j'avais l'impression que du coup, c'était en 2021. Et alors qu'en France, c'était un nom, mais c'était.
Mais surtout qu'elle n'a pas trouvé d'éditeur au Québec et que du coup, elle a été publiée pour la première fois au Seuil.
Ah bon ?
Absolument, en France.
Ouais.
Dans la rentrée littéraire de 2001, tu sais quoi.
La logique ne tient pas du tout.
Ouais, mais c'est.
Non, mais peut-être qu'elle a été.
C'est trop étrange, quoi.
Parce qu'il y a quand même eu un truc où elle a été publiée en France, mais il y a eu une réappropriation au Québec.
Et je sais que c'est la chanson de Pomme.
Oui, qui s'appelle Nelly.
Ouais. Qui a fait que. Et moi, je pensais que c'était depuis ça que c'était revenu en France.
Oui, c'est un peu ça. Et en même temps, le livre de Louise Chenevière, et il y a eu un biographie qui a été écrite par Joanne Rigolo, qui a été publiée aux Avril. Et tout ça contribue à la résurgence de Nelly Arcan, quoi.
Mais ça aurait été génial qu'on programme Nelly de Pomme, on aurait pu y penser, mais on va pas écouter ça. Tout de suite, on va écouter. On va écouter Thank You for Recording de Au Clou.
Sit in my little house. I try to feel something that I like. Oh, when I get bored of looking inside myself, I always open windows at night. There's a tornado swing and it's rocking me right to sleep. Thank you for recording. There's a tornado swing and it's rocking me right to sleep. It's getting me up, but thank you for recording. The city lights are fading the stars away. So I don't bother looking outside. I'm so cry when the words on display.
Recording de Au Clou. Vous écoutez toujours Radio Campus Paris, il est 20h25 et c'est toujours Sally Quoi.
Sally Quoi ? Sally Quoi ? On a dit Sally Quoi les filles sur Radio Campus Paris.
C'est donc toujours Sally Quoi, on est toujours hyper nombreux et nombreuses dans le studio. Et on continue avec notre tour d'horizon des livres qui nous ont marqués cette année. Et c'est notre chroniqueur préféré qui prend le micro en direct ce soir, oui. Qui quitte sa chambre et son studio de montage, son studio,
mon studio de montage,
pour nous parler
de Giovanni's Room, de James Baldwin. Bon, moi aussi j'aurais pu plus le préparer et je suis okay. Intimidée d'être devant vous. Je sais pas, j'ai pas l'habitude de vous voir. Mais du coup, Giovanni's Room, qui est un peu un classique d'homosexuel. Mmh. Et bon, l'histoire est quand même assez simple. C'est finalement une histoire d'un homme, à la base l'histoire d'un garçon, qui se déteste en fait pour le désir qu'il éprouve pour d'autres hommes. Ce qui est finalement en fait une histoire tellement simple et tellement entendue. Et donc ce garçon, qui est américain, part à Paris et commence à naviguer un peu la scène gay et vraiment clandestine en fait à l'époque du Paris, dans lequel il trouve quand même une communauté, toujours en s'en distançant un peu parce qu'il est pas comme eux, il est pas vraiment gay.
Not like other gays.
Il est not like other gays in so many ways. Et la raison pour laquelle j'ai adoré ce livre, c'est parce que je trouve que c'est un livre qui décrit tellement bien la honte et tous les mécanismes un peu vicieux que ça implique comme renoncement vis-à-vis de soi et vis-à-vis des autres. Et ça débute un peu dans le tout début du livre. Il tient la main d'un garçon de son quartier et il y a une métaphore qui est magnifique. Il tient sa main, il prend sa main, il sent sa main chaude et il dit que ça, il sent sa main comme some rare, exhausted, nearly doomed bird. Genre comme un oiseau qui est déjà damné, quoi. Et il y a à la fois beaucoup de douceur et un peu, c'est carrément programmatique du reste du livre, en fait, où en fait, son renoncement vis-à-vis de lui-même le conduit à renoncer à n'importe quelle possibilité de contact vis-à-vis des autres. Sans spoiler le livre, pour ceux qui l'ont lu, ça se passe mal. Globalement, on parle d'histoires qui se finissent mal.
Ouais, c'est super.
Voilà, et il y a quelque chose d'autre que je trouve magnifique dans ce livre. C'est le fait que d'accepter d'aimer, c'est accepter d'être sale. Et il y a beaucoup de métaphores dans ce livre là-dessus. Et notamment à la fin, en fait, où le personnage principal a ruiné la vie de son amant, qui est italien, qui s'appelle Giovanni, d'où Giovanni's Room. Et il y a un des autres personnages qui lui dit « You want to be clean, you want to leave Giovanni because he makes you stink. You want to despise Giovanni because he is not exhausted of the stink of love. » Ce que je trouve absolument magnifique. Et c'est une métaphore que Baldwin file dans tout ce roman, mais avec tellement de justesse. Et à la fin, en fait, ce qui pue vraiment, c'est juste le renoncement à soi. Et ça, j'ai trouvé ça trop, trop fort et trop, trop beau.
Ouais, et la honte du personnage principal, quoi.
Ouais. Oui, 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 carrément.
Mais parce que, enfin, moi, je pense que la force de ce livre est aussi liée au fait que je pense que c'est une partie de l'histoire de l'auteur, qui lui-même était homosexuel, bisexuel, en fait, on ne sait pas trop, mais qui a sûrement vécu tout ce qu'il raconte dans ce livre et tout ce qu'il raconte dans d'autres livres, parce qu'il y a beaucoup de motifs ouais, qui reviennent, dont notamment une maison dans le sud de la France dans lequel débute et se termine le livre, qui revient dans d'autres livres. Je pense que c'est des choses qui ont été largement inspirées par sa propre vie, d'où le réalisme du livre.
Oui, et ce que je trouve très intéressant là-dessus aussi, c'est que donc, du coup, Baldwin est américain, mais il est aussi afro-américain. Mmh. Et c'est un des seuls livres de Baldwin, il me semble, dont les protagonistes sont tous blancs. Mmh. Et en fait, ce qu'il disait, c'est qu'à l'époque, il n'a pas senti de l'espace pour pouvoir parler de ce que lui avait vécu aussi en tant qu'homme noir qui aime les hommes. Mmh. Et en fait, ce qui est désastreux, c'est que son publisher, pardon, on me le pardonnera,
son éditeur,
merci, Knopf, whatever, mm-hmm. Je suis pas suffisamment américain pour savoir comment on le dit. Il lui avait dit de brûler le manuscrit, en fait, parce qu'il allait... tout le monde se calme. Oui,
parce qu'il a paru en 53, en fait. Ça,
ouais, ou 59, dans les années 50.
Dans les années 50,
Extrêmement
précurseur, quoi.
extrêmement précurseur à tellement de niveaux. Et en fait, son éditeur lui a dit qu'il allait s'aliéner son lectorat noir, en fait. Ce qui est quand même...
En écrivant des personnages blancs.
En écrivant des homosexuels.
Ah.
Ce qui est... c'est ce qui est quand même fou et ce qui disait quelque chose de la capacité à publier
comprendre
des
l'intersectionnalité.
Choses. Ouais, à comprendre la possibilité d'être deux choses à la fois, quoi. Mais oui, c'est carrément inspiré aussi de ce que lui a vécu. Mmh. Et il en parle magnifiquement dans plein d'autres publications. Faut tout lire.
Mais on va tout lire.
Voilà.
Pas ce soir, mais.
Ce soir.
On va tout lire. Merci Margot. Tu t'en sors aussi bien en direct qu'en enregistré. Et c'est
merci,
maintenant à Anna de nous parler de ses livres préférés.
Et super. Et c'est un peu bizarre parce que je suis de l'autre côté de la vitre.
Oui, parce qu'Anna réalise cette émission.
Oui.
Elle
est un peu exclue. Il faut se représenter que nous, on est cinq dans une pièce et qu'Anna est toute seule là-bas, en fait.
Avec derrière, on lui fait des signes depuis le début et là, on l'entend.
Et du coup, moi, je vais parler de Tupa Madre de Lucia Echart, qui est paru en 2023 aux éditions Les Terrasses. Et oui, je voulais juste parler de ce livre parce qu'il est super.
Incroyable.
Et il fait un peu le récit d'une fille qui essaye de faire le deuil de sa mère. Et c'est tout un récit qui suit la maladie de sa mère qui... Oui, en même temps, la maladie de sa mère et sa mère était partie de Tupamaros en Uruguay, qui était une milice urbaine de gauche et à Montevideo, ce qui est très stylé. Et du coup, elle essaye de découvrir la mémoire de sa mère en retraçant sa maladie et la décadence de l'état de sa mère. Et elle le fait d'une manière super touchante en racontant tous les moments avec sa mère malade et surtout avec une langue qui est incroyable. C'est vraiment le fragnol. Et du fragnol, et c'est français et espagnol ensemble. Mais du coup, qui est assez accessible aussi si on ne parle pas espagnol, à mes yeux. Mais qui est du coup complètement... Moi, je n'avais jamais vu rien comme ça. Et c'est trop bien parce que c'est très oral et c'est du coup un peu cru comme écriture. C'est très organique. Et du coup, c'est très beau. Et il y a une grande place pour de l'amitié et de l'amour, ce qui est génial.
Et on adore l'amitié et
on
l'amour.
On adore l'amitié et l'amour. Et oui, l'autre livre dont je voulais faire la petite mention, c'est Terre frontalière de Gloriane Saldoa. Le texte original a été publié en espagnol-anglais. Et ça parle... Mais il vient d'avoir une traduction.
Anna qui passe le grand oral, là, ce soir.
Une traduction vient de paraître en 2024 chez les éditions.
Kambourakis.
Et c'est super, c'est un essai sur... C'est un essai, oui, sur l'identité, genre chicana, et ça parle de grandir un peu dans une identité qui est entre lieux, entre le Mexique et les États-Unis dans ce cas, et qui est une identité qui est un peu nulle part, mais entre les lieux en même temps, et que du coup prend des trucs des deux lieux. Et c'est très beau parce que c'est un essai, mais ça mêle essai, narration et poésie. Et la poésie est incroyable. Et elle était aussi lesbienne. Et du coup, elle parle du concept de queer dans cette identité des genres milieux. Et oui, d'être au milieu de quelque chose. Et du coup, c'est très bien. Et je passe la parole à Clarence.
Super, merci beaucoup Anna pour ces deux recommandations
Moi aussi, j'ai adoré Tupa Madre alors que je ne parle pas un mot d'espagnol. Donc, c'est largement accessible.
Vous avez vraiment l'argument pour lire Tupa Madre maintenant. Et Garance, on t'écoute ?
Ouais, alors moi, je vais parler de Les Forces de Laura Vasquez, donc, qui est parue cette rentrée littéraire donc en septembre. En août 2025. Et donc moi, Laura Vasquez, je la connais depuis un moment parce que surtout, je l'ai connue par ses ateliers d'écriture, où elle fait des ateliers d'écriture en ligne. Et donc elle développe comme ça toute une... des ramifications et des... où elle propose des textes et donc des consignes d'écriture. Et du coup, on rentre vraiment dans une espèce de laboratoire de comment elle fait ses textes. Et sauf que j'avais vraiment une frustration énorme parce que je l'ai vue sur scène et j'adore la manière dont elle performe parce qu'elle a un truc vraiment de retrait où elle se met derrière le texte. Et c'est quelqu'un de fascinant, je trouve. Et elle le cherche pas. Enfin, c'est vraiment un truc de présence. Sauf que à chaque fois que j'essayais de lire ses livres, donc elle a écrit... son premier roman, c'était La Semaine Perpétuelle en 2021. Et elle a publié aussi un recueil de poésie, parce qu'elle vient de la poésie. Ça s'appelle Le Livre du Large et du Long et qui a reçu le prix Goncourt de la poésie. Et en fait, moi, ça me fait quelque chose musicalement et presque de manière sensuelle. Mais au niveau du sens, j'arrivais vraiment pas à rentrer dedans. Et du coup, il y avait vraiment ce truc-là où être un peu fascinée par cette figure et pas réussir à rentrer. Dans son écriture de manière autre que sensitive, sensuelle. Et c'est parce qu'il y a vraiment ce truc de tempo, de musicalité que donc j'ai retrouvé dans Les Forces, mais avec une puissance narrative.
Et parce que c'est un roman.
Voilà, c'est ça. C'est un roman. Et donc là, pour le coup, bon, on n'est pas visiblement pas d'accord autour de la table
livre. Je galère à lire Les Forces. Ça
mais alors que pourtant c'est le plus accessible, enfin de mon point de vue c'est le plus accessible de tout ce qu'elle a écrit. Mais effectivement après c'est particulier parce que c'est des trucs très circulaires où c'est pas quelque chose qui va d'un point A à un point B. Mais ce que j'ai adoré c'est qu'on, pour le coup là il y a vraiment un personnage donc la narratrice qu'on suit en fait depuis la maison de son enfance, donc à travers 5 lieux. Et c'est vraiment une personne qui essaye de penser par elle-même et qui bute à chaque fois sur un peu des espèces de phrases toutes faites ou de mots qui perdent en fait une valeur. Les mots sont morts, quoi. Les mots sont plus vivants. Et donc après, il y a tout un truc. Et en même temps, c'est très drôle parce qu'elle arrive après dans un bar lesbien où elle rencontre Claudie, qui est une espèce de... comment on pourrait dire ça, une pitié, non, c'est... Et donc, qui va lui parler de poésie, mais qui lui dit qu'elle n'est pas encore à la hauteur parce qu'elle est trop rentrée en elle-même et qu'il faut qu'elle aille voir. Et donc, elle se retrouve après dans un immeuble qui est avec plein de sectes différentes. Enfin, voilà, c'est très perché comme univers. Mais il y a quelque chose comme ça qui me touche beaucoup, je pense, dans son écriture. Et même avant, et que j'avais du mal à comprendre, de ce rapport entre le dedans et le dehors. Et cette... parce que cette narratrice, au départ, elle parle pas, en fait. Et donc, elle a quelque chose de très... très rentré. Et en même temps, quelque chose de foisonnant. Qui fait que... Et puis à un moment, il se passe quelque chose quand même, une rencontre avec l'extérieur. Voilà, donc je sais pas. C'est très difficile d'en parler, mais en même temps, je pense que c'est vraiment... Enfin, pour moi, ça a été quand même un choc littéraire. Et je crois que j'en ai pas si souvent que ça. Donc voilà pour Laura Vasquez. Je le conseille, même si... À chaque fois que je l'ai conseillé, on m'a dit que c'était pas...
on va... On va recueillir plus d'avis. Enfin, moi, je ne l'ai pas lu, mais...
Moi,
mais
toutes les personnes qui l'ont lu autour de moi ont adoré.
Ah ouais,
ça peut te rassurer.
Ok, très bien. Là, je me sens moins seule.
Je crois qu'on va devoir enchaîner, car on a encore...
Parce que je voulais parler de Maggie Nelson, qui est mon autre amour. Ah, mais oui. Amour, mais
Si tu veux le faire en 30 secondes, mais c'est dur.
Ouais, c'est son dernier livre qui est très, très court et qui s'appelle « Pathé Mata ». Et c'est tout une quête autour d'une douleur persistante qu'elle ne comprend pas. Et donc c'est comme Maggie Nelson fait à chaque fois, il y a une espèce elle entremêle ses rêves, son quotidien, et après bon, il y a tous les trucs de violence médicale, et puis une réflexion sur le deuil, voilà. Et comme toujours, c'est trop bien.
Trop bien, bah, merci Garance. Et nous avons tous et toutes fini de faire nos tops de l'année, ou de l'année dernière. Et on va écouter une minute de musique, parce qu'on n'a pas le temps de plus. On va écouter Namasenda. C'était Still de Namasenda et Anna Diamond, que malheureusement on ne peut pas écouter jusqu'au bout. Mais allez l'écouter car c'est une super chanson finalement. C'est toujours Saliqua sur Radio Campus Paris.
Saliqua sur Radio Campus Paris.
Donna me montre d'autres images de Marlène faites quelques années plus tard pendant un road trip dans les terres lesbiennes de l'Oregon. Elle pose à l'arrière d'une voiture, assise sur le coffre ouvert, son Marcel blanc couvert de traces de cambouis. Elle a l'air terriblement fière. « So badass », dit Donna en regardant l'image avec moi. La passion de Marlène était la mécanique et elle était douée. Elle a même réussi à se faire embaucher sans aucune formation dans des garages, mais à chaque fois, ses collègues la maltraitaient. Donna partage ce dont elle se souvient. Il mettait du poisson avarié dans son casier pour qu'elle en ait plein ses affaires. Il disait qu'une gouine, c'est sale et que ça schlingue le poisson. Et Marlène devait rentrer chez elle avec cette odeur partout sur elle, avec la honte d'être devenue ce qu'il pensait d'elle, une gouine qui pue. Mais elle ne pouvait rien faire. Alors Marlène abandonne. Elle démissionne à chaque fois, incapable de faire face à ses violences et à l'absence totale de soutien de ses employeurs. L'histoire de Marlène est tragique, comme celle de la plupart des personnes photographiées par Donna. L'Amazone des débuts finit par être brisée par la brutalité à laquelle elle est confrontée presque quotidiennement. Ses collègues l'insultent et l'humilient, les gens dans la rue la dévisagent et parfois crachent quand elle passe près d'eux. Les femmes qu'elle aime disent qu'elle est un monstre. Marlène est seule la plupart du temps. Heureusement qu'il y a Donna qui lui rend la vie plus douce.
Vous venez d'écouter un extrait de « Un désir démesuré d'amitié » d'Hélène Giannichini. Lu par Garance. On n'a pas choisi ce livre par hasard. Déjà, on l'a choisi, parce que c'était un de nos coups de cœur communs. Je crois que Alice, tu es la seule à ne pas l'avoir lu, mais sinon, c'est vraiment...
Mais j'ai hâte.
C'est un livre qui nous a rassemblés, déjà par ses thématiques, parce que ce livre, il parle d'amitié, il parle de lesbienne, il parle d'archives et de photos, de plein de choses. Et en plus, il est hyper bien écrit. Et moi, il m'a un peu fait pleurer, ce livre. Et aussi, c'est un livre actuel, déjà, ouais. Parce que bon, il est sorti il y a 2 ans, je crois.
L'année dernière.
Donc, on est quand même plutôt bien. Et surtout, il y a eu une exposition des photos de Donna Gottschalk, dont parlait l'extrait que
Carence vient de dire, au bal, voilà, l'expo s'est terminée, mais elle était super. Il y a encore le catalogue d'exposition en vente, voilà, si jamais. Mais du coup,
Avec des textes inédits qui n'ont pas été publiés, enfin, mis dans l'expo.
Et des photos qui n'étaient pas dans l'exposition. Donc finalement, il faut aller l'acheter.
Et voilà, et donc, du coup, on a décidé de parler de ce livre ce soir. Tous et tout ensemble. Bah, donc voilà, je ne sais pas qui veut commencer par parler de... d'Hélène et de ce livre. Et Margot, tu me tends la main.
Ouais, je te tends la main. Ça comme... En plus, c'est beau parce que c'est vraiment toi qui me l'as recommandé, quoi. C'est comme si on était amis ou quelque chose.
Quelque chose comme ça.
Margot va nous faire la lecture.
Il est en train d'ouvrir.
J'ouvre le livre. Il est très concentré. Et
ça dit quoi? Mais l'idée, c'est pas qu'on lit sur le moment.
Non, je sais.
Il tourne les pages.
Notamment car la lecture est silencieuse.
Tu cherches un truc. Non, je sais ce que je veux dire, mais on rigolait. Mais je vais le garder. Ce que j'ai trouvé trop beau dans ce livre, c'est l'effort pour faire une généalogie et pour tracer une histoire commune, mais qui soit une histoire commune queer, et du coup qui passe... Bon, c'est aussi un peu une frustration que j'avais avec un peu tous les livres qui parlaient d'amitié, qui opposaient vraiment beaucoup l'amour romantique et l'amitié dans les histoires, et je trouvais que ça effaçait en fait aussi beaucoup d'histoires queer, et je pensais aussi à Femme de John Nessel et des manières dont les histoires queer et notamment lesbiennes ont été effacées par le mouvement lesbien, enfin le mouvement lesbien des années 70, et où en fait il y avait l'idée qu'il fallait pas parodier les hommes, etc., mais que du coup en fait on a marginalisé toute une partie des lesbiennes finalement et leur histoire, et j'ai trouvé que ce livre faisait vraiment justice à l'histoire des amitiés queer et dans toute leur complexité en fait, et l'idée de tracer une généalogie et vraiment de partir en quête d'une histoire qui est commune, mais aussi de fabuler quand on sait pas en fait. Ça, j'ai trouvé ça trop fort, et elle le dit au début. Donc, bon, je fais une généalogie, mais je suis pas historienne en fait, je m'en fous. Enfin, mon idée c'est de construire une histoire qui est à nous, quoi. Et s'il faut que j'affabule.
Mais c'est ce que disait Monique Wittig justement, d'inventer quand y a des blancs.
Moi, je trouve ça génial, justement, ce truc de dire, en fait, les histoires familiales, de toute façon, c'est toujours des histoires racontées, pseudo-vraies, donc pourquoi pas m'inventer une histoire familiale avec cet homme gay dont j'ai trouvé la photo sur une brocante, et qui est un peu ce qu'elle fait, ouais.
Et en même temps, il y a quand même une rigueur, parce qu'elle est historienne de l'art, du coup, et autrice, et je trouve que c'est hyper intéressant, même la manière, là, dans le passage que j'ai lu, la manière dont elle cite vraiment, parce qu'elle a enregistré des heures et des heures de Donna Gottschalk, du coup, qui est cette photographe qui avait été complètement... Enfin, en fait, finalement, elle n'a jamais eu une carrière parce que lesbienne, et parce que ses profs lui disaient... Je ne sais plus, par contre, à quelle université elle avait été, mais en tout cas, ses profs lui disaient qu'elle ne pouvait pas... elle ne pourrait jamais rien faire de ses photos parce que ce n'était pas des vrais sujets, et c'était presque des monstres, et il y avait vraiment ce discours-là. Et du coup, c'est grâce à Hélène Giannichini qu'il y a eu cette exposition qui était la première fois finalement qu'elle exposait. Et le fait qu'en plus, elle cite, c'est pas comme si elle reprenait, elle réécrit. Il y a vraiment cette attention aux archives et donc aux photos donc, qui sont... elle peut pas les transformer, mais là encore plus à la parole où il y a ce soin-là. Donc c'est à la fois, c'est imaginer, mais c'est l'impression de surtout faire des liens entre tous ces matériaux-là.
De faire un réel travail de mémoire, en fait.
Ouais.
Et pour bien comprendre, elle a les images et elle raconte
ce qu'elle dépend. A envie de faire. Comme elle est historienne, notamment de la photographie, elle aime les photos. Non, elle raconte qu'elle va beaucoup dans des brocantes. Elle raconte qu'elle a toute une collection de photos queer, mais qui sont pas forcément... il n'y a pas forcément de légende. Ça peut être, des vieux albums de photos de famille vendus en brocante parce que les gens vivent des maisons ou quoi. Et du coup, il y en a où elle invente des histoires autour de ces photos-là. Et après, il y a aussi... je crois qu'elle parle des archives lesbiennes de New York. D'ailleurs, trop marrant que tu aies parlé de Femme de John Nessel, parce que j'ai failli mettre dans mon top Pousser les murs de John Nessel. Bref.
Incroyable.
Et donc, elle parle des archives. John Nessel qui a créé les archives lesbiennes de New York, pour faire le lien. Et après, du coup, Donna Gottschalk, pour le coup, elle est allée chez elle. Et du coup, elle a vraiment eu accès à ses archives personnelles, et d'accord, elle l'a enregistrée. Du coup, elle fait un mélange entre archives vraiment répertoriées et trucs qu'elle a trouvés.
Un peu tangente, mais aux archives, aux Lesbian Her Story Archives, aux archives lesbiennes, tu peux toucher. Genre, il y a une kitchenette, enfin, tu peux vraiment toucher les archives, tu peux toucher des vieux t-shirts. C'est à peine, tu touches des vieux Marcel de Butch des années 70. Et je trouve ça trop cool, pas de toucher les Marcel de Butch, mais d'avoir vraiment un rapport genre tactile et personnel à l'archive. Et je trouve qu'elle le fait très bien. Enfin, l'idée que l'archive, c'est pas l'archive, c'est ce qu'on crée, et c'est ce qu'on choisit qui est une archive, et c'est pas forcément quelque chose qui est dans un carton poussiéreux. Et ça, je trouve ça à la fois trop cool, et à la fois je trouve que ça m'a donné à réfléchir à ce que je faisais comme archive aussi, et à, tu vois, et aux manières dont on en crée un peu tout le temps, quoi.
Oui, carrément.
Et aussi dont peut-être la mémoire se rafraîchit. Enfin, genre, tu peux regarder une photo à un moment donné et genre ça t'évoque quelque chose d'une pote, et genre, je sais pas, 10 ans plus tard, en fait, il s'est passé 1000 choses avec cette personne, et donc la photo prend un tout autre sens, et genre, je trouve ça cool aussi d'avoir des supports matériels qui permettent d'y revenir aussi et de réévaluer en fait ses souvenirs grâce à ça.
Et c'est exactement ce qui s'est passé, parce que quand Hélène Giannichini a vraiment filmé Donna Gottschalk, et du coup elle avait ses propres photographies devant ses yeux qu'elle n'avait pas vraiment ressorties, parce qu'en plus, parmi toutes les personnes qu'elle photographie, il y en a beaucoup qui sont mortes au moment où elle parle. Mais sauf qu'elle a vraiment, je pense aussi, grâce à ce support dont tu parles, cette espèce de reviviscence, ça se dit, quelque chose qui revient comme ça, beaucoup plus prégnant.
Mais ça ravive quelque chose.
Je sais pas, j'ai fait deux trucs de revivre. Ouais. Faire revivre. Et je trouve que le fait de les voir aussi dans l'exposition, il y a quelque chose où on a peu l'habitude finalement de voir des espaces que, en l'occurrence lesbiens, de l'intérieur. On voit souvent des manifestations et tout ça, et là c'était... Je pense que c'est pour ça que c'est d'autant plus fort, quoi.
Et on n'a aussi pas l'habitude de voir des espaces lesbiens où les femmes ne sont pas en couple, mais sont amies. Et c'est ce que je trouve vraiment trop, trop cool avec ce texte. C'est que, il questionne surtout les rapports d'amitié. Bon, déjà, le titre, un désir démesuré d'amitié, est magnifique. Et dit tout sur la beauté de ce texte et sur l'aspect fondamental de ce texte qui, pour moi, c'est vraiment un texte... la définition même de queer, c'est ce texte, quoi. Parce qu'il remet en question la place de l'amour qui est centrale dans nos vies et dans les sociétés hétéronormées dans lesquelles on vit. Et notamment, l'idée de l'amour hétérosexuel et le couple et de la famille nucléaire qu'on doit toutes et tous atteindre dans la vie. Qui doit mener à avoir des enfants et à se reproduire et à continuer à faire vivre l'humanité. Et là, je fais des gros guillemets.
Après, c'est écrit d'un point de vue très bourgeois quand même aussi. Enfin, pas pour dire que nous, on ne l'est pas autour de cette table, mais je suis d'accord avec toi sur ce que ça dit d'être queer et tout, mais je pense qu'il y a quand même un truc très bourgeois dans l'écriture. Enfin, j'adore ce livre, mais elle raconte sa vie et sa petite maison de campagne.
Et son trip en Amsterdam.
Mais après, c'est trop bien, mais je suis d'accord avec toi, pardon. Mais je voulais juste préciser ça. Enfin, que voilà, bref.
Ah bah oui, je suis entièrement d'accord.
Oui, c'est vrai.
Non, vas-y.
Elle écrit depuis un point de vue bourgeois, mais dans la mesure où elle fait quand même une généalogie avec des gens qui vraiment ne l'étaient pas, genre c'est pas frustrant à la lecture, et aussi genre elle a quand même ce degré de conscience de sa position. Et je crois qu'il y a un moment donné où elle dit il faudrait pas faire de l'amitié une passion bourgeoise. Ce qui en vrai, par rapport à d'autres livres par exemple dont on aurait
ça
pu parler,
ça, par exemple dont on a parlé.
Oui, non, c'est sûr. Genre, c'est carrément vrai, mais genre.
Ça change complètement. Ouais. Oui. Et en vrai, moi, j'ai adoré. Enfin, et en vrai, ce que j'ai trop aimé dans ce livre, c'est que je me suis sentie hyper. Je me suis reconnue de ouf dans sa vie et de. À la fois. Parce qu'elle parle quand même de ses amours aussi dans le livre, mais j'ai trouvé ça trop beau, justement, ce truc où à la fois elle a ses amis et elle a ses amantes. Et elle arrive à jongler entre les deux et à faire un peu toute cette grande famille autour d'elle. Et,
Oui, la famille choisie, en fait.
Ouais, et j'ai trouvé... Enfin, mais si les...
Ouais, mais justement, est-ce qu'elle parle de... Parce que...
Je sais pas si je crois pas qu'elle parle. Ouais,
parce que ce que je trouve intéressant, c'est ça aussi, c'est qu'elle... Enfin, du coup, elle est... Enfin, elle a de très bons rapports, visiblement, avec sa famille.
Ouais.
Et que, justement, c'est pas le truc de l'amitié qui devrait prendre...
La place
forme,
de la famille.
La forme d'une famille. Mmh. Ouais. C'est juste autre chose, et en fait, d'aussi fort, voire plus fort, et... Mmh. Et du coup, on enlève cette espèce de référent qu'est la famille.
Ouais. Après, moi, il y a un passage dont je me rappelle qui m'a vraiment marquée. C'est, elle parle d'une amie à elle qui est à l'hôpital. Et ça brise le cœur. Enfin, elle arrive à l'hôpital pour la voir et on lui dit « Ah non, c'est uniquement la famille. » Et elle écrit que c'est horrible parce qu'elle, elle est probablement plus proche de cette amie que n'importe qui de sa famille. Et du coup, un peu dans cette remise en question de... Du coup, pas de la famille en soi, mais un peu des rapports de... Juste de comment la société, la société est faite autour du rapport familial, le nucléaire et tout. Mais oui, Anna, je ne sais pas si tu voulais... Parce qu'il ne nous reste plus beaucoup de temps, mais si tu avais des choses à dire.
Non, je voulais juste... oui, que pour moi aussi, genre, le truc de la représentation de désir démesuré d'amitié, genre, elle montre aussi comment genre, les amants sont aussi des amis dans les cercles lesbiens et qui
oui, absolument.
Est très important. Et je pense qu'elle elle le montre de manière très juste. Et oui, c'est un peu tout ce que... Ouais.
Non, oui, elle montre bien cette porosité entre amitié et amour qui est très belle, quoi. Voilà. Enfin, moi, c'est ce que j'ai beaucoup aimé avec ce livre. Mais il y a plein de choses autres.
Et vous l'avez découvert comment ?
Je l'ai découvert en allant sur le site internet du Seuil, je crois.
Et c'est moi qui te l'avais envoyé, non ?
Et tu me l'avais envoyé aussi, ouais.
C'était à l'époque. Parce que je travaillais au Seuil à l'époque et du coup, je me souviens d'avoir fait une enveloppe avec ton nom.
C'est en service presse. oui, je crois que j'avais vu passer le résumé. Je me dis, il a l'air trop bien. Et j'ai vu Seuil et je me suis dit, Valentine.
Et moi, c'est toi qui me l'a conseillé. Je l'ai acheté, je l'ai offert à une amie juste après. En fait, je voudrais tracer
le chemin de qui
se l'est conseillé. Parce que je crois que Jess l'a aussi conseillé à quelqu'un.
Ouais, moi, je l'ai conseillé à tout le monde.
Ouais, moi, je l'ai offert aussi. Mais je trouve que c'est un livre qui s'offre très facilement, en fait. Parce que
tout le monde est concerné, même.
Absolument, ouais.
Et toi, tu l'as découvert comment, Garance ?
Moi, bah, du coup, elle a très niche. Mais j'ai découvert à la Maison de la Poésie. Et justement, ça, pour le coup, c'était très fort parce que ça fait écho avec Laura Vasquez. C'est le fait d'entendre des textes dits. Et je crois que c'est ce que j'aime beaucoup aussi. C'est le fait que, finalement, ça, le texte vit même en dehors du livre lui-même. Enfin, il y a vraiment ce truc de... Bah là, ça, même là, il y a ce truc de faire lien qui passe donc par la parole à haute voix. Là, elle a fait un film, des photos. Enfin, et Hélène Giannichini, au bal, a fait aussi beaucoup de rencontres littéraires, même pas que littéraires.
Valentine a eu la chance d'entendre Anna Mouglalis.
Ouais, oui, réciter Stonebridge Blues, ce qui était incroyable.
Ouais. Et du coup, je trouve ça. Enfin, j'ai l'impression qu'elle essaye aussi de le mettre en place, pas que. Enfin, même au-delà de ses amis, et que c'est quelque chose qui entraîne comme ça tout le monde finalement.
Oui. et malheureusement, bah, c'est déjà la fin de cette émission. On aurait pu parler pendant, je pense, très longtemps de Hélène Giannichini et de. Et d'un désir de mesurer d'amitié. Mais voilà, c'est la fin. Merci d'avoir écouté Sally Quoi. Merci Valentine et Alice d'avoir été nos invités spéciales.
Merci d'avoir invité.
Merci Garance et Margot pour votre participation. Merci à Anna pour la participation et la réalisation de cette émission. J'espère qu'on vous a donné envie de lire des livres ce soir parce qu'on a quand même cité beaucoup de livres. Ils seront tous référencés et à retrouver en description sur le site internet de Radio Campus Paris, à la page de Sally Quoi et sur toutes les plateformes de podcast. Puisque Sally Quoi est une émission à retrouver un lundi par mois sur le 93.9 FM, sur le DAB+, Canal Campus en Ile-de-France, sur le site internet de Radio Campus Paris et sur toutes les plateformes de podcast. On est partout. Restez sur Radio Campus Paris, la soirée se poursuit avec Absence jusqu'à 22h. Alors, bonne soirée.